de la passion de notre Seigneur, c'est évidemment le cœur de notre foi après le mystère de l'incarnation, d'avoir devant les yeux, et c'est un motif puissant pour progresser dans l'amour de notre Seigneur. Saint Thomas d'Aquin, qui a écrit de si belles choses sur bien des choses, disait que toute sa vie, il n'avait eu qu'un seul livre. Alors on va chercher le livre le plus gros qu'il ait pu lire, le philosophique, théologique, ou l'Écriture sainte. Eh bien non, c'était le crucifix. La croix de notre Seigneur a été pour lui le grand livre où il a appris l'amour de Dieu et tout ce qui en découle vis-à-vis de nous. Donc il faut régulièrement méditer la passion de notre Seigneur, pas seulement pendant le carême, les vendredis de carême, il est d'usage de faire un chemin de croix par exemple, ou le vendredi, il faut aimer, nous unir à notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez eu en audition à table la vie du Padre Pio, c'est évidemment un modèle qui n'est pas imitable en tout point, qui est admirable, mais qui en tout cas nous montre, et ça c'est à imiter, la compréhension et le souci de comprendre cet amour de Jésus crucifié. Il ne s'agit pas de souhaiter les mêmes charismes, les mêmes privilèges qu'il a reçus. Il faut souhaiter, en tout cas, en revanche, avoir l'amour de Jésus crucifié qu'il a eu. Alors, les textes de la Passion sont présents dans la liturgie de la Semaine Sainte. Nous les avons du dimanche des Rameaux au vendredi saint. Les quatre Passions sont lues ou chantées. Mais si nous nous contentons de ces auditions ou de ces lectures pendant la Semaine Sainte, ça n'est pas suffisant. Il faut aimer lire ces passions qui sont dans les évangiles. Si vous avez, bien entendu, je pense, un évangile, une Bible à la maison, aimez revenir à ces évangiles. Vous allez au chapitre, alors ça dépend des évangélistes, mais il y a donc quelques chapitres correspondant à cette passion. Aimez en lire une de temps en temps, intégralement. Et vous verrez les fruits que vous en retirerez. C'est bien plus facile, vous le savez bien, si on le fait à partir d'un chemin de croix, par exemple, c'est facile de méditer sur la passion. Ça nous prend tout de suite, on a une évocation simple et terrible à la fois des événements. Donc faites-le. Si vous ne savez pas sur quoi méditer le matin, prenez le chemin de croix, une station du chemin de croix. Ça peut être tout à fait fructueux. Et vous en avez 14, donc ça vous donne déjà 2 semaines pleines. Alors je voudrais vous inviter ce soir à méditer quelques-uns seulement, nous n'avons que quelques minutes, des événements de la passion de notre Seigneur, mais j'ai voulu les prendre selon un certain angle, celui des béatitudes que notre Seigneur a prêchées. Dans son discours sur la montagne, le discours sur la montagne, c'est l'un des plus beaux grands discours que Jésus a prononcé, qui nous est relaté dans l'évangile de Saint Matthieu, dans les chapitres 5, 6 et 7. Les trois beaux chapitres qui sont le résumé de la vie chrétienne et des béatitudes qui sont développées. Hein, donc elles sont énoncées en début de chapitre 5. Et elles sont développées en long et en large par notre Seigneur jusqu'au chapitre 7 inclus. Là aussi, une lecture facile et une lecture fructueuse de l'Évangile. Alors, souvenons-nous que Jésus nous a promis le bonheur. Quand il est venu sur cette terre, il nous a annoncé cette bonne nouvelle, cette béatitude céleste, moyennant de notre part la volonté de le suivre et de le suivre en prenant notre croix. Que celui qui veut être mon disciple donc, se renonce, prenne sa croix et me suive. Et nous le savons, ce sont nos péchés qui ont fermé la voie du ciel, qui nous a été fermée, le premier péché des premiers parents, mais nos propres péchés ne peuvent nous fermer la porte du ciel, même si elle est ouverte en soi, désormais. Et donc, c'est notre amour pour Jésus et l'acceptation de répondre à son appel, à cet appel de prendre cette croix sur nous et de le suivre, qui nous vaudront le droit, eh bien, de le rejoindre au ciel. Ne l'oublions pas, comme le dit saint Augustin, Dieu t'a créé sans toi, il ne te sauvera pas sans toi. Le salut n'est pas automatique. Nous ne sommes pas sauvés malgré nous. Nous avons été sauvés indépendamment de nous. Oui, le prix en a été payé indépendamment de nous, mais il n'est pas appliqué indépendamment de nous, en tout cas, pour la plupart des cas. On pourrait dire, dans le cas d'un enfant et qui meurt baptisé, jeune baptisé, eh bien, il y a effectivement cette... On a l'impression que là, il n'y a pas eu de participation active au salut de l'enfant, c'est vrai. C'est la gratuité des dons de Dieu. Mais d'une façon habituelle, c'est une participation qui est exigée, celle de la foi, celle des œuvres qui concourront à l'obtention du ciel. Donc, vous êtes toutes dans ce deuxième cas, puisque l'enfance est terminée. Alors, on pourrait se dire, comment peut-on rapprocher la passion de notre Seigneur Jésus-Christ et les béatitudes? Eh bien, il n'est pas surprenant de pouvoir les rapprocher, parce que justement, notre Seigneur nous a montré que pour obtenir le ciel, il fallait porter la croix. Donc on va voir que dans la passion de notre Seigneur, il a lui-même montré le chemin et l'application des béatitudes. Alors les béatitudes ne se retrouveront pas dans l'ordre dans lequel elles sont prononcées, tout simplement parce que j'ai préféré l'ordre chronologique de la passion. Donc j'ai essayé de retrouver des manifestations de ces béatitudes vécues par notre Seigneur ou enseignées par notre Seigneur dans sa passion. Et cela donc bouleverse un petit peu l'ordre. Le premier élément, premier événement que notre Seigneur, que je voudrais mettre en valeur dans la passion de notre Seigneur, c'est cette prière, cette belle prière qu'il adresse à son Père au jardin des Oliviers, où il est dans ce combat, si on peut dire, de l'angoisse de sa mort qui se précise chronologiquement. Et tous nos péchés qu'il voit et qu'il va prendre sur lui, le noie dans une espèce de sentiment d'écrasement, d'horreur face à la multiplication de nos péchés, de dégoût. Et cette volonté humaine qu'il a, eh bien, pousse un cri naturel, on pourrait dire, même si ce n'est pas tout à fait comme cela qu'il faut le dire, de rejet, de fuite de cet événement terrible qu'il va devoir subir et qui est en même temps la conséquence de ce poids de péché. Et donc il demande à son Père d'écarter ce calice. Et puis aussitôt après, c'est sa volonté humaine qui se soumet à la volonté divine et il dit « Père, non pas ma volonté, mais la vôtre ». Et cette belle parole doit être évidemment méditée dans notre vie régulièrement. Ce qui anime Jésus à cette heure suprême de l'agonie, eh bien, c'est cette même disposition qu'il a eue depuis son incarnation et qu'on pourrait résumer dans la béatitude de la faim et soif de justice. En effet, on pourrait transformer cette phrase ou rappeler une autre phrase que la Sainte Écriture met dans la bouche du prophète, « Ecce venio, me voici ». Et on l'applique bien sûr à notre Seigneur, « me voici », cela veut dire « je suis venu faire la volonté de mon Père ». Acceptation, désir, faim, soif de la justice envers son Père. Et si l'on compare avec nous, eh bien on se rend compte que trop souvent notre vie est un combat de deux volontés, non pas que nous en ayons deux, mais nous opposons la nôtre à celle de Dieu. La nôtre contre celle de Dieu. Et cette rivalité, eh bien, est fatale lorsque nous choisissons la nôtre. Et on comprend que notre Seigneur ait voulu réparer tous ces refus de justice de Dieu en prenant sur lui cet horrible destin qui est imminent à quelques heures de son, à quelques minutes ou heures de son arrestation et bien sûr à quelques heures de sa passion proprement dite, avec toutes les souffrances qui sont annoncées, qu'il connaît d'avance. Le péché, c'est bien cette tentative de faire abstraction de la volonté de Dieu, qui voulait pourtant ainsi nous élever à sa propre volonté, dans son propre amour, et puis eh bien, nous opposons à son plan, on en a déjà parlé dans une autre instruction. Et puis à l'inverse, lorsque sous l'action de la grâce, eh bien, nous nous fondons dans la volonté de Dieu, eh bien nous voilà, comme Jésus à l'agonie, nous voilà conformes à la volonté de Dieu et nous allons pouvoir porter du fruit, comme Jésus a porté du fruit en acceptant de se donner en sacrifice. Et voilà ce que Dieu veut, c'est que nous ayons faim et soif de la justice divine, que nous ayons envie de louer et de servir Dieu. Voilà le sens de notre vie. Cette phrase peut être véritablement un élément directeur de notre vie. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Le deuxième événement sur lequel je voudrais insister, c'est la trahison de Judas, qui va suivre cette prière, cette longue prière à l'agonie de notre Seigneur. On peut dire que Jésus n'a pas trouvé de consolation en la compagnie de Pierre, Jacques et Jean, qui étaient les trois apôtres qu'il avait choisis pour être témoins de cette agonie. Ils se sont endormis à plusieurs reprises. Jésus priait, leur avait dit de prier avec lui, et ils se sont endormis, c'était la nuit. Ils n'ont pas mesuré la terrible solitude dans laquelle se trouvait notre Seigneur, et ils se sont dit, il prie, ça lui arrivait régulièrement de prier la nuit, donc ils étaient sans doute inquiets, bien sûr, les circonstances n'étaient pas paisibles, mais ils se sont laissés aller sans avoir cette délicatesse envers leur maître de soutenir dans un moment où manifestement ils se montraient dans une angoisse réelle. Et il y a pire que cela, c'est cette trahison de Judas. Trahison de l'un des 12 apôtres, l'un de ceux qu'il a appelés, qu'il a aimés, à qui il a donné sa grâce, à qui il a prêché la vérité, sur qui, on pourrait dire, il comptait pour répandre la vérité, devant qui il a fait des miracles, à qui il a permis sans doute de faire des miracles. Il n'y a pas de raison que Judas n'en ait pas fait alors que les autres apôtres en ont fait. Et surtout ce Judas qui n'a pas su saisir les nombreux avertissements que notre Seigneur lui a prodigués pour ne pas se laisser tomber dans ce projet qu'il avait déjà dans le cœur et de tomber dans le désespoir qu'il l'a emporté. Et ce terrible geste d'amitié, d'un baiser, il embrasse notre Seigneur comme signe de reconnaissance pour les serviteurs des grands prêtres, c'est la terrible inversion de l'amitié, de la charité, qui est complètement vidée de son sens, et à l'inverse même, qui est le signe d'une trahison. Ça, on pourrait dire, il l'aurait fait n'importe comment, d'une façon n'importe quelle autre. On aurait plus accepté, davantage accepté cette trahison, d'une certaine façon. Mais dans un geste d'amitié, c'est véritablement là la trahison au cœur même de la charité, c'est le cas de le dire. Ce geste de trahison est la conséquence logique, ultime, d'un vice, ne l'oublions pas, qui n'a pas été combattu en Judas, et c'est l'avarice. Cela est dit, cela est révélé, cela est expliqué. Judas a toujours été préoccupé de gloire humaine, de richesse matérielle, cela est clair. Il a espéré trouver en Jésus sans doute un sauveur temporel, capable de rendre la liberté à Israël. il a voulu ce Messie que beaucoup attendaient, mais sur lequel il y avait une erreur d'interprétation pour beaucoup d'entre les Juifs. Et Judas n'a pas compris la béatitude numéro un que notre Seigneur a donnée. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ce royaume, il le voulait sur terre et il le voyait terrestre, c'est-à-dire un roi, des ministres dont il serait, et une grande richesse, une grande puissance sur un peuple qui aurait fêté son libérateur terrestre. Judas s'est offusqué lorsque Marie-Madeleine a répandu son riche parfum sur les pieds de notre Seigneur. Il a faussement prétexté que cette dépense aurait pu être faite au profit des pauvres, et Saint Jean a une phrase terrible en disant qu'il ne se préoccupait absolument pas des pauvres, il volait même dans la caisse, on peut dire, la petite gestion des apôtres qui devaient être quand même, effectivement, qui avaient des besoins matériels. Eh bien, Judas, donc, n'a pas compris le message de notre Seigneur et ou l'a refusé. Il n'a pas compris la pauvreté matérielle de Jésus. Il n'a pas compris qu'elle était volontaire, qu'elle était un chemin à suivre pour justement inverser le sentier de perdition qui éloigne souvent l'homme de Dieu parce qu'il s'attache aux richesses matérielles ou aux créatures matérielles d'une façon générale. Et notre Seigneur a montré justement qu'en se détachant des richesses matérielles, on allait pouvoir trouver le royaume de Dieu. Et uniquement en s'en détachant, on allait pouvoir trouver le royaume de Dieu. Et celui qui était né dans une étable, qui n'avait pas où reposer sa tête, c'est lui-même qui le dit, qui est mort, qui va mourir et qui va être enterré, enfin mis au tombeau, dans un tombeau qui ne lui appartient même pas, eh bien, il a montré ce total dépouillement pour, comme condition indispensable d'une possession du royaume du ciel. Ceux qui veulent posséder, il les incite à posséder, mais pas n'importe quoi, le ciel uniquement, parce que toute autre possession qui ne sera pas le ciel fermera la porte au ciel. Et c'est donc cette invitation à la pauvreté en esprit qui est donc ce détachement réel, complet, vis-à-vis des choses de ce monde. Non pas qu'on ne les utilise pas, mais on ne s'y attache pas parce qu'elles ne peuvent pas susciter en nous un véritable amour. Elles ne doivent être que utilisées autant qu'on en a besoin et pas plus. Et nous devons les référer, les reporter uniquement à Dieu. Les biens qui nous sont confiés ici-bas ne nous sont donnés, nous sont prêtés que pour gagner le ciel. Si nous en possédons, ça n'est pas un péché, mais c'est pour en faire un bon usage et les répandre à ceux qui n'en ont pas. Dieu a fait en sorte que nous soyons complémentaires les uns des autres. Et il y a des gens qui ont, d'autres qui n'ont pas ou qui ont moins. Et ceux qui ont sont là aussi pour ceux qui n'ont pas. Troisième événement, c'est le reniement de Saint-Pierre. Pierre, étant sorti dehors, pleura amèrement. Cette belle phrase qui conclut le reniement progressif et multiplié de Saint-Pierre, eh bien, nous fait découvrir une autre béatitude. Jésus est emmené chez le grand prêtre pour y subir un simulacre de jugement. Sa cause est complètement entendue, mais on va garder les apparences de la justice. Alors on fait comme si on allait être juste. Alors on convoque de faux témoins qui vont déposer de façon contradictoire et d'ailleurs ridicule. Et puis Pierre suit son maître de loin. Et là on a déjà une indication, parce que lorsque on s'éloigne de Jésus, eh bien on ressent, c'est vrai, un froid intérieur. Et Saint-Pierre, dans ce détail du fait qu'il a besoin de se réchauffer, certains auteurs disent, a priori, il ne faisait pas si froid que ça. Alors, ils avaient quand même allumé un petit brasero, mais peu importe, le vrai froid qui doit exister, c'est celui de son cœur, parce qu'il s'éloigne de plus en plus de Jésus. Lui qui avait promis d'être le dernier parmi les derniers qui resterait jusqu'au bout, eh bien, c'est trop fier à ses forces, à son tempérament, et a oublié de demander la grâce, à une forme de présomption, et à présumer de ses forces. Alors il se rapproche du feu, qui est un feu matériel. Lorsqu'on s'éloigne de Dieu, on a besoin de la consolation des choses de ce monde. Observez-vous. On est tous de la même façon. Et lorsqu'il y a des tristesses, lorsqu'il y a des contrariétés, qu'est-ce que l'on fait ? On se rapproche des créatures, quelles qu'elles soient. Et on cherche une consolation, un soulagement dans les choses de ce monde, dans les plaisirs de ce monde. Et c'est évidemment, ce n'est pas là qu'il va se réchauffer le cœur. Il s'approche des fausses lumières, des fausses consolations, celles du monde. Et lorsque on l'interroge, « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth », eh bien, il dit « Je ne connais pas cet homme ». Parole terrible qui sort de la même bouche de celui qui avait dit quelque temps auparavant, sous l'inspiration du Saint-Esprit, comme l'authentifiera notre Seigneur lui-même, « Vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Lorsque notre Seigneur avait dit « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Saint-Pierre prend la parole et il répond « Vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Alors le coq se met à chanter. Cela vérifie la prédiction que Jésus avait faite à Saint-Pierre, qui lui promettait, lui, Saint-Pierre, il lui promettait témérairement, c'est une fidélité sans faille, et il se souvient de cette prédiction du coq qui chantera alors qu'il l'aura déjà trahi. Puis Jésus sort de la maison du grand prêtre et il croise le regard de Pierre. Il faut admirer cette bonté prévenante de notre Seigneur. Imaginez cette circonstance très précise qui a bouleversé Saint-Pierre est évidemment voulue de Dieu. Ce croisement de regard a dû être marqué à vie dans la mémoire de Saint-Pierre. Et sans un mot, il n'y a pas de parole échangée, eh bien Jésus l'appelle à la contrition, l'appelle au repentir. Saint-Pierre y a peut-être revu un autre regard, celui de notre Seigneur, mais à un autre moment, lorsqu'il l'a appelé. Ça n'était que 3 ans auparavant. Lorsqu'il lui a dit « Suis-moi », enfin plus exactement il s'est adressé à plusieurs, il a dit « Suivez-moi », ils étaient 3, et dont Saint-Pierre, « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Et ce regard à nouveau, mais un regard sans doute différent, mais toujours plein d'amour, plein de compassion, qui va évidemment provoquer les pleurs de Saint-Pierre. Il est touché par la grâce, ce sont des pleurs de contrition, et cette contrition, il va la cultiver, il va la prolonger toute sa vie, puisqu'on disait que Saint-Pierre était mort avec des traces, des creux presque, d'avoir trop souvent pleuré durant toute sa vie. Mais Pierre ne tombe pas dans le désespoir, et c'est la différence bien sûr avec Judas. Il a vu dans les yeux de notre Seigneur un appel à la contrition et non pas une condamnation. Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Voilà cette béatitude dans cet épisode qui nous montre qu'il faut pleurer nos péchés dans cet état d'esprit. Nous avons peut-être nous aussi dit « Je ne connais pas Jésus-Christ », alors que nous avions promis le jour de notre baptême de ne suivre que notre Seigneur Jésus-Christ, de mépriser les choses du monde, de renoncer aux œuvres du démon. Quelles que soient nos trahisons, tout péché est une trahison, je vous en parlais l'autre jour en disant c'est presque un adultère, eh bien nous pouvons pleurer nos trahisons, nos infidélités, et bienheureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. N'oublions pas cette autre invitation à pleurer, je vous en parlais ce matin, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-même et sur vos enfants. » Pleurez nos péchés, en voir toute l'horreur, toute l'ingratitude, eh bien, c'est aussi cela, la grâce d'une retraite, c'est ce que notre Seigneur nous invite à produire comme fruit en contemplant sa passion. Plus tard, notre Seigneur est amené devant Pilate, qui l'envoie lui-même devant Hérode, ce roi débauché, et notre Seigneur se taisait, et Jésus se taisait. Devant Pilate, il répond à certaines questions, parce que Pilate est l'autorité légitime, et il répond dès qu'il est question, bien sûr, de sa royauté, et pour témoigner, pour publier cette royauté. Une royauté qui ne vient pas, dont le pouvoir n'est pas issu de ce monde. Attention à la compréhension de cette phrase. Mon royaume n'est pas de ce monde. Il faut bien comprendre le texte d'origine. C'est une origine. C'est un lieu d'où l'on vient en latin. C'est-à-dire que ça n'est pas mon royaume n'est pas ici-bas. Cela veut dire mon royaume ne vient pas d'ici-bas. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que l'origine de mon pouvoir n'est pas ne sont pas les hommes de cette terre, ne sont pas une puissance de cette terre ou un vote ou une désignation de cette terre. Mon royaume n'est pas de ce monde, ça veut dire que mon royaume ne se justifie pas, n'a pas son autorité qui lui vienne d'une quelconque autorité ou légitimité humaine. Donc, il faut voir dans ce silence un silence qui est par rapport à Hérode spécialement, là où il n'y a rien à dire parce que, en fait, c'est un homme qui est débauché, qui ne cherche pas du tout à connaître la vérité. Et donc, c'est la douceur que Jésus manifeste spécialement, une douceur qui est la seule arme que nous puissions avoir parfois contre le déchaînement des passions, contre l'endurcissement de cœur. Parfois, la douceur, et souvent la douceur, sera la seule arme que nous aurons pour désamorcer tel prochain qui s'enflamme ou tel prochain qui ne comprend pas la vie chrétienne. Et en nous montrant doux, eh bien, nous parlerons plus, nous convertirons certainement plus, enfin en tout cas, Dieu convertira plus par notre témoignage. Face aux adversités, face aux insultes, face aux contradictions, aux persécutions, eh bien, ce sera la douceur qui nous fera conquérir le ciel. Alors, en tout cas, conquérir dès ici-bas, c'est la promesse que notre Seigneur fait. Bienheureux ceux qui sont doux, car ils posséderont la terre. Je continue. Encore un petit peu, je ne sais pas pourquoi ça sonne si tôt. Après avoir fait flageller Jésus, Pilate le livra pour être crucifié. La flagellation, c'était un supplice terrible, bien sûr, vous connaissez, codifié, tellement qu'on n'avait pas envie d'avoir la victime qui mourait, eh bien on avait limité le nombre de coups. Le suprême raffinement, c'était de ne pas dépasser un nombre de coups parce que ça pouvait tuer, tout simplement. La victime. Alors le corps de Jésus va recevoir la violence des fouets qui sont garnis de plomb pour expier bien sûr notamment nos sensualités, tous les désordres de la chair, toutes les indécences, tous les plaisirs désordonnés. Le corps de Jésus va être livré donc à la souffrance parce que il faut réparer ces désordres de la chair. Le mauvais usage du corps trouve en notre Seigneur, bien sûr, ce point culminant de souffrance, de la flagellation, qui sera en plus endurcie par le chemin de la croix et par la crucifixion, bien sûr, aggravée. Lorsque le corps sert mal et se révolte, enfin, est utilisé pour se révolter contre Dieu, eh bien, lui aussi doit être châtié. Et c'est bien sûr pour nous une leçon, non seulement pour fuir l'impureté sur toutes ses formes, mais aussi, bien sûr, pour réparer dans notre chair, que ce soit essentiellement, et c'est là que je vous invite à réparer, c'est dans tous ces événements qui nous arrivent. Bien sûr, on peut s'infliger des pénitences, mais sachons d'abord offrir telle maladie, telle infirmité, tel désagrément, qui sont tout autant d'invitations que notre Seigneur nous fait pour eh bien, nous unir à cette flagellation. Le corps n'est pas une chose mauvaise, ça a été créé, ça fait partie de notre être, mais il peut être utilisé, malheureusement, et surtout avec les conséquences du péché originel, de façon désordonnée. Alors pensons à cet esprit de pénitence, pensons à ce couronnement d'épines, à ce crucifiement qui, tous ces événements, ont martyrisé le corps de Jésus. Alors nous, quand nous avons des souffrances physiques, eh bien sachons les offrir, bien sûr. Bienheureux alors les cœurs purs, car ils verront Dieu. La pureté du corps révèle la pureté du cœur, et c'est lorsqu'il y a pureté du cœur que l'âme se dirige vers Dieu, se dirige vers la possession de Dieu. Père, pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est la première parole que notre Seigneur adresse à son Père lorsqu'il est crucifié, lorsqu'il est sur la croix. Ses mains et pieds sont transpercés dans d'atroces souffrances. Il ne pourrait, si on le comprendrait, penser qu'à survivre, qu'à sa souffrance. Eh bien non, la première parole qu'il adresse sur ce gibet, c'est une parole de pardon. On a l'impression même que Jésus oublie la culpabilité des pécheurs et qui voit comme une ignorance, là où il y a eu faute, et en faisant de cette ignorance comme une circonstance atténuante. C'est vrai que le pécheur, d'une certaine façon, oublie dans son péché, dans son aveuglement, qu'il crucifie son Dieu, mais n'oublions pas le pécheur, par définition, s'il pêche, c'est qu'il sait qu'il fait mal, parce qu'il n'y a pas de péché qui soit sans notre volonté. Et trop souvent, l'homme veut être son propre Dieu, et il bafoue la justice divine, il se fixe ses propres lois, il fait abstraction de Dieu. Et bien, malgré cela, notre Seigneur dit du pécheur, « Père, pardonnez-leur ». Et cela est une invitation, bien sûr, pour nous, à la miséricorde. « Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront eux-mêmes miséricorde ». Il faut pardonner à ceux qui nous ont offensés. Il faut ainsi nous revêtir de la miséricorde divine. C'est en ce sens-là, que nous sommes de vrais fils de Dieu. Bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. C'est, on pourrait dire, le résumé de toute la passion de notre Seigneur. Le royaume des cieux est à eux, car le royaume des cieux est à eux. Admirez ce présent. La possession du royaume des cieux est accordée immédiatement, on pourrait dire, à ceux qui souffrent persécution. Il ne suffit pas d'avoir faim et soif de justice, il faut être capable, à la suite de notre Seigneur, d'endurer les persécutions, d'accepter d'être maudit, d'être exclu, d'être accusé de tous les maux, au nom de Jésus-Christ, à cause de Jésus-Christ. N'oublions pas cette phrase dans saint Jean, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Et le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Alors ne soyons pas étonnés d'être mis en marge, d'être montré du doigt. Cela fait partie de cette invitation que notre Seigneur a donnée dans cette béatitude. Enfin, la dernière par laquelle je conclue, c'est cette belle phrase que notre Seigneur a dite le jour de Pâques. « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. » Les fruits de la passion, c'est la paix, c'est la réconciliation entre la créature et Dieu. Et cette phrase, il la répétera souvent, « Que la paix soit avec vous. » Il est venu réconcilier les hommes avec Dieu, et le prix de cette réconciliation, cela a été sa passion, sa mort. Alors, la paix, c'est le fruit de la charité. C'est un des fruits de la charité, cette charité qui s'est donnée en sacrifice. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Voilà la leçon d'amour, on pourrait dire, qui résume tout la loi nouvelle. Et cette paix nous est désormais accessible, ne l'oublions pas. « Dans le monde, vous aurez des tribulations, dit Jésus, mais ayez confiance, j'ai vaincu le monde. » Mais il faut conquérir cette paix. Et c'est, on pourrait dire, le sens de cette deuxième partie de votre retraite, de cette suite de la retraite au retour de chez vous. Il faut vivre de cette paix retrouvée et la consolider, bien sûr. Elle est à notre disposition parce que Jésus nous a légué ses sacrements en héritage qu'il a donné à son Église, le Saint Sacrifice de la Messe, qui est évidemment la source première de cette paix, de cette rédemption communiquée par les sacrements. C'est la source d'eau vive qui va désaltérer nos âmes, les rafraîchir, mais aussi les purifier, les laver. C'est la paix du Christ que nous recevons, bien sûr, à la communion, parce que nous recevons l'auteur de cette paix. Et puis Jésus nous a donné aussi sur la croix la reine de la paix, la bienheureuse Vierge Marie, et elle ne cessera d'œuvrer pour que nous recevions véritablement cette réconciliation tout au long de notre vie. La Sainte Vierge Marie a reçu cette mission, nous en avons parlé ce matin, et au pied de la croix, et elle veut que nous recevions, que nous vivions de cette paix. Et on peut dire que c'est le résumé de cette béatitude. Bienheureux les pacifiques, ceux qui donnent la paix, parce qu'ils seront appelés enfants de Dieu. Alors à nous de faire nôtres ces vertus de Jésus, qui sont manifestées dans sa passion, à nous de vivre de ces béatitudes, de voir qu'au travers des différents événements de la passion de notre Seigneur, il y a véritablement l'illustration de ce don du royaume des cieux accessible, une invitation à rejoindre notre Seigneur dans la croix, non pas pour y rester, mais pour conquérir ce royaume du ciel qu'il a promis. C'est l'évangile, la bonne nouvelle qu'il a développée donc dans son discours des béatitudes. Nous nous rendons à la chapelle. Alors nous arrivons bientôt au terme de cette retraite. Le terme précis, c'est demain, avec la messe. Je précise cela pour que, à la fin de cette instruction, il y aura donc les complis, comme tous les soirs. Ce n'est pas la fin de la retraite, donc vous restez silencieuse jusqu'à demain, après la messe. Chiche. Alors, c'est la conclusion de cette retraite. Le mot conclusion est ambigu parce qu'on a l'impression que c'est une fin, alors que je vais vous lancer sur un nouveau début. Alors, on pourrait parler de transition. Transition, ou pour rebondir sur le sermon de ce soir, passage. Très beau sermon de Mgr Lefebvre, qui tombe parfaitement bien, comme la plupart, comme tous les sermons que vous avez pu entendre, là, qui ont été très bien choisis, et qui doit vous aider à cette traversée du désert, non pas que vous allez entrer dans les angoisses de la vie du monde et dans les sécheresses du désert, mais vous allez retourner dans cette vie familiale, professionnelle, du monde, dans le monde. Et pour cela, il faut bien sûr avoir pris quelques précautions, quelques mesures qui vous aideront à profiter des fruits de cette retraite. Une retraite, c'est, je disais tout à l'heure, un nouveau départ, pourquoi pas, pour certains, certaines. C'est en tout cas, de toute façon, la continuité de notre vie, mais une vie renforcée, une vie fortifiée, une vie plus lumineuse, parce qu'on s'est laissé purifier par la grâce, parce qu'on a découvert un grand nombre de vérités, parce qu'on a été fortifié dans notre volonté pour aborder notre vie, la même et pas tout à fait la même qu'avant la retraite. Et donc, on continue quelque chose, mais ce quelque chose, cette vie, elle est désormais mieux balisée, mieux orientée ou réorientée, si on a dû changer de cap pendant cette retraite, et souvent on a des choses à changer de toute façon. Et alors, il faut, pour en profiter de façon pendant un long temps, eh bien, il faut prendre quelques mesures. Ces mesures, vous les avez déjà prises, ce sont, la première chose évidemment importante, ce sont les résolutions. Donc, je ne vais pas revenir sur les résolutions, mais cela fait partie, évidemment, des moyens premiers qui garantiront la qualité de cette reprise de votre vie dans le prolongement de la retraite. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que la retraite ne doit pas être un ensemble de 6 jours pendant lesquels vous avez eu l'occasion de méditer, de prier mieux, de découvrir des tas de choses, de recevoir plein de grâces. Et puis après, on ferme la parenthèse et puis on reprend notre petit bonhomme de chemin avec ses hauts, ses bas, ses dérapages, ses remontées de pente, etc. Et puis on se souvient les jours heureux passés sans toutes les charges de la maison, sauf de temps en temps un petit peu de service quand même. Mais enfin, qu'est-ce que c'était bien, alors que là, on rentre, on aura qui les enfants, qui le travail, tout le train-train quotidien qui va nous retomber dessus. Alors, évidemment, si la retraite n'arrive pas à s'insinuer comme un ruisseau qui s'infiltre partout dans votre vie, c'est peut-être et ce sera certainement parce que vous n'aurez pas justement rebalisé votre vie avec les résolutions. Donc les résolutions sont le premier des grands moyens pour prolonger les fruits de cette retraite. D'où l'intérêt de les avoir prises prudemment, c'est-à-dire avec le conseil, avec le jugement qui montre que c'est cela qu'il faut prendre, et puis avec l'impulsion. Cette volonté qui décide, qui est résolue à prendre telle et telle résolution. Je vous ai résumé au passage les 3 actes de la prudence. La vertu de prudence est fondée sur 3 actes qui lui sont indissociables. Le conseil, le jugement et, ce qu'on dit en latin, imperium, le déclenchement de la volonté, de l'ordre. Et donc, si ces résolutions ont été prises prudemment, eh bien, elles doivent être tenues. Et plus elles ont été précises, plus elles seront faciles à tenir. Et en même temps, il faudra régulièrement les revoir, les regarder. Donc, c'est pour ça qu'il faut les écrire. Et on reprend sa feuille, qu'on ne classe pas verticalement à la sortie de la retraite, et qu'on met dans un endroit où on sait qu'on peut le retrouver. Et on le regarde une fois par mois à peu près. On fait le point. On fait le point. Donc les résolutions seront évidemment l'un des éléments pour mieux vivre ce retour dans votre vie de tous les jours. N'oublions pas qu'un autre moyen pour prolonger les fruits de la retraite, c'est aussi de revenir sur tel ou tel passage de la retraite qui vous a été fructueux. Un petit peu comme une abeille qui passe sur un certain nombre de fleurs et puis elle en trouve de plus riches que d'autres. Et donc elle s'arrête plus longtemps que d'autres. Ça a été certainement pendant votre retraite un certain nombre de lumières, de consolations sur un certain nombre de vérités. Et il est bon d'ailleurs, ça c'est trop tard maintenant, mais de les noter en cours de route, ces lumières, ces choses comme ça. Moi, je pense qu'on vous l'avait dit, que vous l'avez fait. Et d'y revenir tout en sachant, attention, que vous n'aurez pas les mêmes consolations que pendant la retraite. Donc ne soyez pas dans l'illusion. Si vous avez eu des extases mystiques sur tel ou tel passage, dans telle ou telle méditation, vous ne les aurez probablement pas, même avec votre papier, en les relisant. Ça ne marchera pas. Donc, ça ne vous empêchera pas de méditer et d'avoir d'autres grâces, peut-être à l'occasion de ces lumières. Et peut-être que certains passages, en tout cas, certaines instructions, vous les repenserez, vous les approfondirez, vous les compléterez, Et vous vous direz, ah ben oui, tiens, j'avais commencé ça à la retraite, mais là, c'est vrai que ça m'a aidé. Depuis cette retraite, depuis cette instruction, depuis cette méditation, j'ai mieux compris, et grâce à ce livre que j'ai pris, grâce à cet élément que j'ai complété dans mon catéchisme, dans ma méditation, j'ai mieux compris telle ou telle chose. Donc là encore, deuxième moyen, c'est la prolongation d'un certain nombre de lumières que le bon Dieu vous a données. Et s'il vous les a données, c'était pour une raison précise, c'est-à-dire vous faire avancer dans l'union à lui-même. Donc n'oubliez pas cela, et dans vos notes, peut-être qu'il y a des choses que vous regardez. Alors c'est pareil, c'est pas tous les jours qu'on relit ces notes de retraite, mais une fois par mois, pourquoi pas? On vous a peut-être conseillé la récollection mensuelle, hein, donc c'est cette petite pause qu'on essaye de faire. C'est pas toujours facile parce qu'on a une vie trépidante et donc on a du mal à caser une journée, surtout quand on est en famille. Donc c'est quasiment impossible de la faire dans les meilleures façons, dans les meilleures conditions, hein, qui sont de se retirer pendant une journée, d'être tout seul, toute seule. Et voilà, ça c'est quasiment impossible pour la plupart. Mais enfin, il y en a qui peuvent le faire, qu'elles le fassent, bien sûr. Et pour celles qui ne le peuvent pas, parce qu'il y a la vie de famille qui continue, bien sûr, eh bien, qu'elles prennent un petit peu, ne serait-ce qu'une heure, sur un mois, dans un mois, un jour, pour faire le point, reprendre les résolutions, reprendre quelques notes de retraite, approfondir une des instructions qui ont été entendues, etc. Vous voyez, et faire ce travail de prolongation, de prolongement des fruits de la retraite. Et alors, inévitablement, vous progresserez dans bien des domaines. D'abord, dans ce domaine spirituel, bien sûr, au sens strict, c'est-à-dire que vous aurez toujours plus de connaissances, plus de goût des choses divines. Et en même temps, ça vous stimulera parce que ça vous remettra un petit peu, même si c'est différent, même si vous ne sentirez pas les choses de la même façon, dans le bain de la retraite, et vous en aurez un retour, on pourrait dire, de courage, d'encouragement dans votre vie, même s'il y a des épreuves qui sont déjà revenues, même si vos défauts sont réapparus, tous ceux que vous aviez cru avoir abandonnés pendant 5 jours et que était sûr que vous n'auriez plus ces manifestations de défauts parce que vous n'aviez plus à les pratiquer, si on peut dire comme ça. On se croit toujours vertueux quand on est plus soumis à la tentation dans un domaine en particulier. Malheureusement, la nature revient vite. Hein, donc, j'en reparlerai après. Voilà, donc un petit peu les deux grands aspects pour prolonger les résolutions. Ça, sont les piliers de votre prolongation, de prolongement de la retraite. Et puis, positivement, reprendre, approfondir des points précis de votre retraite. Et ça vous donnera le goût d'étudier, ça vous donnera le goût de peut-être de discuter avec quelqu'un, de tiens, cette question-là, j'en m'en a parlé à la retraite, qu'est-ce qu'il en est? Et de fil en aiguille, vous aimerez à retrouver le chemin d'ouvrir un catéchisme, d'ouvrir un livre de doctrine, parce que souvent, il faut le reconnaître, le temps vous manque, et donc, ça n'est pas la résolution qui vient la plus, et que l'on tient le plus facilement, parce qu'il faut prendre du temps, il faut lire, il faut avoir un livre, on ne sait pas trop lequel, etc. Donc, contentez-vous, si vous n'avez pas d'idée, de points que vous avez déjà redécouverts ou redécouverts pendant la retraite. Par rapport à ce retour immédiat, donc demain a priori, je voudrais vous donner aussi quelques conseils pour non pas prolonger l'esprit de la retraite, ça je l'ai fait, mais disons arriver en douceur dans ce retour à la vie de tous les jours. Il faut éviter quelques écueils que celles qui ont déjà fait plusieurs retraites connaissent sans doute, au tout moins pour leur première, ce qu'on pourrait appeler l'écueil de l'angélisme. C'est-à-dire que vous êtes monté tellement haut dans les chemins de la sainteté pendant ces 5 jours. De fait, pendant une retraite, on pêche beaucoup moins, voire pas, enfin en tout cas très véniellement, mais c'est une joie, bien sûr, un temps de retraite, parce qu'on se dit... La vie spirituelle, c'est possible. La vie chrétienne, la vie de charité chrétienne, c'est possible. On est même content de faire la vaisselle. On est content de mettre le couvert ou de servir à table. Alors que c'est pas forcément la même joie qui vous anime, qui nous anime en d'autres temps. Alors donc, si on est content de faire la vaisselle, c'est forcément qu'il y a une énorme vertu qui est née pendant ces 5 jours. Et donc, on va voir ce qu'on va voir au retour. Et puis malheureusement, il y a parfois de grandes désillusions si tôt que l'on rentre, parce qu'on voit qu'il y a une semaine de vaisselle à faire. La famille a attendu pieusement elle aussi. Alors cet angélisme, il ne faut pas l'avoir, il faut se dire qu'on a progressé, mais on ne s'en préoccupe pas. Il ne faut pas se préoccuper, il ne faut pas mesurer sa sainteté. Attention, ça c'est un grand danger. Surtout quand on, pas tellement pour les débutants, une conversion immédiate, c'est pas ce danger-là. C'est plutôt quand on avance, plutôt quand on a déjà bien commencé à enraciner notre vie spirituelle. Alors on commence à mesurer, à regarder un petit peu où on en est sur le thermomètre de la sainteté, sur les demeures du château de Sainte-Thérèse d'Avila. Alors on commence à regarder vers le haut. Et on se rend compte que là, c'est la meilleure façon de tomber et de retomber très bas. Donc pas d'angélisme. Pas non plus de ce qu'on pourrait appeler de faux mysticisme. C'est-à-dire, vous avez bien compris qu'il fallait prolonger les fruits de la retraite. On vous l'a même dit en conclusion à la dernière conférence. Donc, c'est pas vous qui l'avez inventé. Et du coup, c'est promis, je rentre à la maison et je vais donc reconstituer dans ma famille ou dans ma vie seule les conditions de la retraite. J'ai acheté une cloche, ça me permettra de... Elle sera électrique sinon... Donc je vais pouvoir régler ma vie de façon parfaite et puis... tout le monde, évidemment, doit suivre si vous êtes en famille. Alors, ça se fera, évidemment, je pense, à peu près une journée, et tout le monde craquera, vous, la première. Donc, attention, il faudra accepter ce retour de la vie quotidienne dans tout ce qu'elle peut avoir de pénible, de monotone et de contraignant, bien sûr. Et vous penserez avec bonheur à ces jours passés à Flavigny, un peu chaud parfois, mais finalement agréable. Et il faudra se dire, Deo gratias pour ces jours agréables. Mais là, on reprend le quotidien qui n'est pas toujours rose, qui est lourd, qui est fatigant, qui dure évidemment jusqu'à l'année prochaine. Alors. Voilà ce qu'il faut éviter, et puis se dire que finalement, ça va être la piété qui va, envahir votre vie. Attention, si vous avez charge de famille, si vous êtes mère au foyer, si vous avez un travail, si vous ne pourrez pas faire tout ce que vous auriez envie de faire et qui serait en soi bon. Aller à la messe tous les jours, c'est en soi bon. Mais ça peut être gravement imprudent pour la plupart d'entre vous. Parce que vous avez une famille, parce que vous avez un travail, et parce que si vous êtes à la messe et que à la maison il n'y a personne, ça peut être un grand bazar en très peu de temps. Attention à cette erreur. Et du coup, il faudra justement, et c'est pour ça que vos résolutions normalement étaient prises prudemment, il faut bien se dire que il y a des choses qui ne pourront pas être faites. Mais c'est l'esprit et la charité qui vous animera dans les choses que vous ferez et que vous devez faire, qui sera cette expression de votre amour de Dieu et des fruits de la retraite. Donc ne vous trompez pas de modalité. Le troisième écueil, ce serait celui de l'autoritarisme. Alors, c'est-à-dire que vous, là encore, vous allez revenir et vous allez vous dire, à la maison, jusqu'alors, ça n'allait pas et on va voir ce qu'on va voir. Maintenant, il faudra que ça marche J'ai plein de conseils, c'est pas moi qui les ai inventés non plus, ce sont les prêtres qui nous les ont dit. Donc, il y a plein de choses qu'on va supprimer, il y a plein de choses qu'on va ajouter, des dévotions. Alors, on a une liste impressionnante. On a toutes les dévotions du livre bleu et en avant, bon, attention, vous êtes seul dans votre famille, a priori, sauf exception, à avoir fait la retraite. Donc il y a un petit décalage qui risque de s'opérer entre vous et le reste de la famille. Donc il est bon d'aborder certaines questions avec vos époux, avec vos proches, si vous vivez avec des proches, etc. Pourquoi pas ? Pour éventuellement commencer, et assez rapidement, parce que les résolutions, il faut les prendre à chaud, sinon, pour éventuellement envisager telle ou telle réforme de vie ou abandon de choses pas forcément bonnes dans la vie de famille, etc. Mais n'arrivez pas et vous encadrez votre feuille de résolution pour montrer, attention, maintenant, c'est comme ça, ou bien je me fâche. Alors, il ne faudra pas vous comparer non plus à vos époux, à vos proches. C'est ça. Il y a une difficulté. Il y a une bonne volonté qui veut se déployer, mais au dépens, parfois au détriment, du reste de la famille, et qui fait qu'on va chercher d'une façon idéaliste et parfois autoritaire une vie nouvelle. Alors qu'il faut généralement procéder par petites touches. Et la première chose qui convaincra vos époux, vos proches, etc., eh bien, ce sera votre exemple. Et ce seront vos vertus. Ces mêmes vertus qui n'étaient pas forcément totalement développées avant la retraite, le seront un peu plus peut-être après, mais il faudra vérifier. Et ce seront vos proches qui vérifieront, pas vous. Donc il faut bien se dire que il faudra procéder avec esprit surnaturel dans ces petits changements ou grands changements. Ça peut être des choses à changer, à modifier, parce qu'il peut y avoir des désordres dans la vie de famille, des choses comme ça. Mais en tout cas, évidemment, s'il y a des choses graves, ça doit être terminé. Il y a une façon de le dire, il y a une façon de le présenter. Et tout cela doit être évidemment nourri de charité, nourri d'un esprit de douceur, parce que ça n'est pas évidemment... La dureté qui peut convaincre ceux qui n'ont pas entendu, qui n'ont pas suivi la retraite. Il ne s'agit pas non plus donc de se comparer, de comparer avec d'autres. Je crois que ça, c'est aussi une difficulté, c'est que nous vivons, ça c'est un avantage, nous vivons en société, mais la difficulté, c'est que on pourrait relativiser un certain nombre de questions dans la vie de famille, dans la vie de tous les jours, et se dire, ben, un tel fait comme ça, donc, après tout, ils sont bien gentils, les prêtres, mais enfin, ils nous demandent des trucs qui sont pas faciles à faire, eux, ils ont pas à les faire, ces choses-là, et nous, etc. Vous voyez, une espèce de comparaison sur des choses qui sont fondamentalement justes, mais sur lesquelles on est en train de partir à la baisse ou de relativiser sous prétexte que telle famille, telle personne, tel ami ne fait pas comme cela. Si ce sont des choses bonnes qui sont pour votre famille bonnes et pour vous bonnes et qui ont été vues prudemment bonnes, eh bien il faudra tenir et il faudra réformer éventuellement. Donc à la fois pas d'idéalisme et pas non plus de défaitisme ou de... Finalement, bon, bah, c'était bien la retraite, mais maintenant, maintenant, moi, je continue à vivre parce qu'on vit comme ça. Attention, ce serait l'inverse. Donc, ce serait la faiblesse. L'inverse, c'est la présomption. C'est de se dire, ben voilà, je vais tout réformer et puis ça va se faire. Dans les 6 mois, normalement, tout devrait être rentré dans l'ordre. Pas de délai, pas de calendrier, surtout quand ça concerne les autres. Donc, attention à ces défauts parce qu'ils sont un petit peu les tentations du démon après la retraite. N'oubliez pas qu'il cherchera à se venger de cette retraite. Et cela peut se réaliser de diverses façons. La plus essentielle qu'il cherchera à faire, n'oubliez pas, je vous en ai déjà parlé, c'est le découragement. Donc là, soyez vigilante. Dès que vous commencez à entendre la voix du découragement, vous entendez en fait pas directement, attention, la voix du démon. Mais c'est un effet de l'action générale et très et lointaine quand même du démon sur nous, mais qui est réel. Donc attention, ce découragement, ça va être le grand piège, le piège peut-être numéro un qui vous guettera et qui sera la vengeance du démon. N'oubliez pas que le démon, ça ne lui plaît pas une retraite. 50 personnes qui reçoivent les grâces, se purifient, se décident à suivre notre Seigneur Jésus-Christ, etc. Ces 50 personnes qui deviennent, qui s'éloignent de lui. On est toujours plus ou moins près par le péché du démon. Donc, et là, brusquement, en 5 jours, il perd 50 personnes. Alors, il les a pas perdues, il se dit, je les ai pas perdues définitivement, je vais les rattraper. Donc, attention, ne soyez pas surprise de cela. C'est normal. Nous retournons dans la traversée du désert, nous l'avons redit. Et donc, il y aura la sécheresse, la dureté du temps, etc., au sens spirituel. Il y aura les tentations dans le désert. Et tout cela, eh bien, nous le savons. Nous le savons. Donc, si nous le savons, faut s'y attendre. Ne nous disons pas, la retraite a supprimé toute cause de tentation. Ce serait aberrant. Donc, les tentations, vous les aurez. Mais vous avez acquis plein de force pour vous battre. Et si vous ne laissez pas venir ou si vous ne laissez pas durer la tentation, vous vous en débarrasserez bien plus vite et bien mieux qu'auparavant. Et là, c'est propre à tout combat spirituel, c'est-à-dire que il faut évidemment se rappeler qu'une tentation, on ne discute pas avec elle, on s'en débarrasse par la prière, par un petit peu de pénitence, immédiatement. On ne discute pas avec le démon, vous l'avez déjà entendu cette phrase. Donc voilà un petit peu les écueils qu'il ne faudrait pas dans lesquels il ne faudrait pas tomber. Et pour achever ces quelques conseils, je voudrais reprendre un certain nombre de points là qui pourront éventuellement recouper vos résolutions, mais sans les développer. Mais je voudrais vous rappeler quelques éléments clés qui permettront à Dieu de régner sur vous. Dans ma petite fiche, j'ai intitulé mon propos « Dieu veut régner sur nous ». Ça veut dire que c'est vraiment cela qu'il faut rappeler, à qui il faut vous rappeler. À la fin de cette retraite, il faut se dire « D'accord, je veux entrer dans le royaume de Dieu ». Cela veut dire que Dieu doit rentrer en moi pour régner par moi, pour régner sur moi. Mais pour régner en moi et par moi, c'est-à-dire avec ma volonté, mon intelligence et ma volonté qui sont à son service, pour sa gloire. Voilà un petit peu le sens de notre vie. Nous sommes, comme dit Élisabeth de la Trinité, des humanités de surcroît, c'est-à-dire nous prolongeons l'incarnation de Jésus-Christ, nous faisons arriver son règne dès ici-bas, dès cette terre. Alors sur certains points, j'irai très vite. Premier point, c'est bien sûr, vous aurez compris l'importance de la prière. Alors, ça n'est pas une nouveauté, je vais vite. La prière personnelle et la prière familiale, si cela correspond à votre état de vie. Cette prière personnelle qu'il faut absolument avoir et faire lorsque, quelle que soit votre condition. Même si vous avez une prière en famille ou si vous dirigez la prière de famille en début de journée, il faut que vous ayez une petite prière personnelle, au réveil ou un peu après. La prière, c'est l'âme qui parle à son Dieu. Vous avez aimé parler à votre Dieu, à Dieu, pendant ces 6 jours. Eh bien, c'est bon signe. Et le bon Dieu ne veut pas que ça s'arrête au 6e jour. Alors, la prière, bien sûr, doit être un des éléments privilégiés de votre vie. Les sacrements de la vie chrétienne sont, vous avez fait une retraite de vie chrétienne, les plus importants, ceux qu'on reçoit le plus, c'est bien sûr l'Eucharistie et la pénitence. Voyez comment, mais ça c'est aussi dans vos résolutions, comment les recevoir mieux, les recevoir plus souvent, si cela est possible. Jésus se veut être notre nourriture, et donc votre âme maintenant, vous avez senti qu'elle était plus affamée, plus assoiffée de Jésus-Christ. Ça, c'est l'effet de la grâce. Eh bien, il faudra la nourrir, cette âme. Parce que vous pourriez à nouveau retomber dans cette diète obligatoire, enfin, que le péché finit par donner, et on n'a plus envie de goûter Dieu à cause du péché. Donc, bien sûr, le sacrement de l'Eucharistie à la messe et le sacrement de pénitence. Ne retardez pas, pour celles d'entre vous qui n'auraient pas l'habitude de se confesser fréquemment, eh bien, faites cet effort, ça doit faire partie de vos résolutions, de vous fixer au plus, 3 semaines, 1 mois. Voyez. Et même si vous avez l'impression de ne pas savoir quoi dire ou de ne pas voir vos péchés, allez vous confesser pour le peu que vous voyez et vous laisser purifier par le sang de notre Seigneur. Ça n'est pas un luxe que le bon Dieu a voulu donner ou un remède que le bon Dieu a réservé aux grands pécheurs. C'est aussi, je vous l'ai dit une fois, c'est aussi, bien sûr, c'est le moyen privilégié pour développer la vertu de pénitence. Donc c'est pour progresser, pour avancer, c'est pas simplement pour laver, purifier. Le troisième point, c'est certainement l'examen de conscience. On a dû vous en parler. Ce petit jugement, ce petit point que l'on fait avec le bon Dieu, avec notre conscience, qui, comme au jugement particulier, se met à examiner ce qui a été, ce qui n'a pas été. Et là, je précise, je ne sais pas si on vous en a parlé, mais je fais comme ça avec les élèves. Ça me semble une bonne façon de progresser et de garder l'examen de conscience. C'est de ne pas faire un examen de conscience purement négatif. C'est-à-dire de ne pas regarder que ce qui n'a pas été. Il faut qu'un examen de conscience soit en gros en 3 parties. La première, ce qui n'a pas été, si vous voulez, ou ce qui a été, enfin en tout cas un des deux. Et il faut en demander pardon pour ce qui n'a pas été. La deuxième, ce qui a été, le bien que vous avez fait. Il n'y a pas une journée où quand même vous ne faites pas du bien. Et ce bien a été fait grâce à Dieu. Vous avez résisté à une tentation. Eh bien, il faut vous en souvenir. Deo gratias. Vous avez fait du bien à telle personne. C'est pas pour vous enorgueillir. C'est pas pour vous dire, ben voilà, ça y est, je commence vraiment à progresser spirituellement. C'est pour dire merci, mon Dieu. C'est pour dire merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu, de m'avoir donné cet honneur, cette grâce, cet honneur d'avoir participé au bien que vous voulez répandre autour de vous, autour de moi. Et puis, en troisième point de l'examen de conscience, une petite résolution que vous faites, ça peut être plusieurs fois la même, ça peut être plusieurs soirs la même, où vous dites, allez, puisqu'il y a ce point-là qui est faible en moi, eh bien je l'attaque, demain c'est ça que j'essaye de combattre, ou c'est ça que j'essaye de faire positivement comme bien, c'est pas forcément négatif. Et je vous garantis qu'un examen de conscience comme ça, sur ces 3 points, est déjà plus supportable que cette espèce de bilan négatif que l'on aurait tendance à faire, et qui nous le fait abandonner parce qu'on déprime de toujours avoir le même bilan dans le rouge. Et ce n'est pas bon. Ça n'est pas bon spirituellement d'avoir ce genre de... Alors du coup, l'examen de conscience devient l'instant du soir qui nous fait déprimer, quoi, pour résumer. Le combat du défaut dominant, ça c'est dans vos résolutions. Je n'y reviens pas parce que je n'ai pas le temps de développer. Il faut mieux se connaître, et quand on se connaît mieux, eh bien, on est plus disponible pour Dieu. On est plus disponible pour Dieu. On se connaît mieux, on connaît mieux nos faiblesses, et donc on attaque plus là où il faut attaquer. Et là, évidemment, c'est un travail de long terme. La fuite des occasions dangereuses, ça j'y reviens parce que c'est important. Il faut refuser le péché sous toutes les formes. Et pour le refuser sous toutes les formes, eh bien, il faut avoir repéré nos faiblesse habituelle, enfin plutôt les occasions dans lesquelles nous tombons habituellement. Et si on a quelque chose qui nous attache, il faut s'en détacher, de façon radicale s'il le faut, si c'est quelque chose de grave, bien sûr. Et si c'est pas gravissime, mais qu'on sent que ça nous fait régresser dans la vie spirituelle, que ça nous fait reculer, ça nous décourage, ça nous fait dire « oui, après tout, pourquoi pas, mais plus tard », attention, ça veut dire qu'il y a déjà un dissolvant dans cet élément-là qui peut être très dangereux. Comme on dit toujours, hein, dans les dans un mur, quand vous avez une fissure, vous pouvez la laisser, parce qu'une fissure, c'est pas ça qui vous fait écrouler la maison. Et pourtant, au bout d'un certain temps, il y a des fissures qui vous font écrouler des murs. Donc, malheureusement, il y a des occasions comme ça qui sont dangereuses et qui peuvent faire des dégâts presque irréparables. La lecture spirituelle, bien sûr. Donc ça, c'est aussi dans les résolutions, je n'y reviens pas, je vais très vite. L'écriture sainte, pour connaître un peu la parole de Dieu. Lisez-la plutôt dans des commentaires, ce sera encore plus riche. Vous avez, je crois qu'on est aperçu encore, il me semble, des Dons de Montléon, hein, qui était un bénédictin, qui est mort dans les années 70, tout au début des années 70, qui a fait de très merveilleux ouvrages, des commentaires sur les patriarches, sur Moïse, sur Josué, sur le roi David, sur Daniel, sur Jonas, et puis dans le Nouveau Testament, quelques ouvrages sur les degrés de l'humilité, sur l'oraison, enfin bref, il y a toute une série d'ouvrages qui sont extraordinaires, très simples d'accès, et pour découvrir, en tout cas pour ceux qui concernent l'écriture sainte, sont vraiment une découverte du sens spirituel qui nous fait découvrir finalement des choses qui étaient un peu choquantes dans l'écriture sainte. On se dit bah oui, mais il y a une leçon spirituelle là pour l'âme, et alors là c'est plus compréhensible. La vie des saints, bien sûr, ça doit être nos modèles. Et puis les auteurs spirituels, lisez des écrits de saints. Ils sont canonisés, donc ils ont fait quelque chose de, ils sont reconnus vraiment comme des maîtres. L'oraison, la méditation, je n'y reviens pas, on vous en a sans doute bien sûr parlé, mais ça fait partie des points qui prolongeront là aussi la retraite. Hein. Si là, je vous conseille de battre le fer quand il est chaud. Hein. Ça, c'est si vous retardez celles qui ont du mal à faire oraison. Si vous ne la commencez pas dès samedi matin, vous allez reporter. Ah ben non, c'est à dimanche. Ce sera très bien dimanche. Je vous garantis. Je vous garantis pas que vous échouerez après, mais commencez tout de suite. Commencez tout de suite. Il y aura la journée de demain qui va être en début un petit peu agitée. Vous aurez la messe d'abord, qui sera pas agitée, mais après vous aurez le voyage. Essayez si vous possible d'avoir un temps, mais bon. Et puis après il y a le retour. Donc là, le retour. La vaisselle, vous vous souvenez. Alors, l'ouverture de l'âme à un prêtre, ça, ce n'est pas facile du tout, donc c'est pas le point que je mets le plus en avant. Si vous pouvez, faites-le. Si vous ne pouvez pas, vous en êtes privé, c'est dommage. Ça peut se faire en confession une fois de temps en temps. On pose une question au prêtre, on demande un conseil de lecture. C'est souvent le seul cas que vous puissiez avoir dans la plupart des lieux de messe. Avant-dernier point, la pénitence. Et là, c'est le dernier point sur lequel j'insisterai avec la dévotion à Sainte Vierge, mais on vous en a déjà parlé, donc le dixième point, c'est la dévotion à Sainte Vierge, mais on vous a fait toute une conférence dessus, donc malheureusement, je le sauterai. Mais le dernier point sur lequel j'insiste, c'est la pénitence. N'oubliez jamais que notre Seigneur nous a dit que c'est par la prière et la pénitence que l'on se débarrasse de certains démons. Alors, il faut comprendre le mot en sens de péché, au sens de mauvaises habitudes, au sens de difficultés, quelles qu'elles soient. N'oubliez jamais que la pénitence, c'est le chemin que notre Seigneur a pris sur cette terre pour réparer nos péchés. Si vous voulez sortir du péché, vous ne pourrez pas faire abstraction, faire l'économie de la pénitence. Alors les pénitences, il ne s'agit pas là encore d'acheter ou de prendre toute une série de cilices, scapulaire rugueux et autres. Il s'agit, pour vivre chrétiennement, déjà d'accepter toutes celles qui vous tombent dessus. Et il y en a beaucoup. Ce sont des choses que vous connaissez, parce qu'elles sont, vous les avez à peine déposées avant la retraite, mais vous allez les récupérer. Ce sont des infirmités personnelles. Ce sont des soucis d'éducation. Ce sont des difficultés familiales. Tout cela, c'est déjà beau de les offrir à Dieu en réparation de vos péchés. Et en ce sens, ce sont des pénitences. Alors bien sûr, il ne faut pas... Ça, ce sont celles qui s'imposent à nous. Et puis, il y a celles qu'on peut s'imposer. Et il ne faut pas attendre le temps du carême ou le temps de l'Avent pour s'imposer des pénitences. Alors, ça doit être varié, ça doit être vivant, généreux aussi. Et ça peut être effectivement des petites choses dont on se prive une fois de temps en temps, on se prive d'un dessert, on se prive d'un loisir qu'on aime bien, d'un temps de lecture qu'on réduit parce qu'on aime bien lire, ou à l'inverse, on rallonge le temps de lecture parce qu'on n'aime pas lire. adaptez à vos caractères, à votre vie, ces pénitences, mais ne les oubliez pas. Ne les oubliez pas. Elles sont réparatrices et elles sont préventives. Donc, juste après un péché qui vous a échappé, ben, vous faites une petite pénitence. Mon Dieu, je regrette, j'ai pris une résolution là-dessus, j'ai démarré au quart de tour, je suis tombé la première tentation. Petite pénitence. Et cette petite pénitence, vous pouvez la faire aussi pour vous préserver d'une chute, pour, vous savez que vous aurez quelque chose de difficile à faire, une petite pénitence en même temps qu'une prière qui vous aide à assumer, à aborder cette difficulté. Vous allez rencontrer une personne, vous savez que vous ne vous entendez pas avec elle. Bien, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on prie, on fait une petite pénitence pour offrir cette rencontre inévitable et qui risque d'être un frottement de deux personnes, et dont vous. Et je crois qu'il faut vraiment avoir, sans compter, sans être là en disant « ça y est, j'ai fait mes pénitences, c'est bon, j'en fais plus d'ici la fin de la journée ». Ce n'est pas tant ça, c'est vraiment un esprit chrétien qui associe sa vie à Jésus-Christ. Et c'est cela dont il faut se souvenir. Alors pour terminer, je nomme quand même bien sûr celle sans laquelle vous n'auriez pas fait cette retraite, Notre-Dame, la Vierge Marie a pourvu à cette retraite. N'en doutons pas, elle vous a consolé, elle vous a guidé, elle a prié pour vous, elle vous a obtenu toutes ces grâces que vous avez reçues. Et je voudrais qu'avec elle, eh bien, ces complis que vous allez chanter, quand vous chanterez tout à l'heure le Salve Regina, eh bien, vous chantiez à notre reine du ciel ce salut, ce merveilleux chant du Salve Regina dans cette action de grâce, parce que elle est là, elle est pour beaucoup dans l'ensemble de ces grâces que vous avez reçues et que vous allez essayer de faire fructifier pour justement remercier Dieu de vous avoir donné tout cela. Je vous disais ce matin en méditation, votre action de grâce qui est indispensable, qui est en justice pour Dieu, c'est toute votre vie, mais une vie placée sous le signe de la croix, mais sous le signe de cet esprit filial en Marie. Alors nous allons maintenant à la chapelle.